Ce sont des femmes ou des hommes seuls, des couples ou des jeunes gens. Ils choisissent un jour de prendre rendez-vous et de venir consulter un sexologue. Certains viennent pour des difficultés passagères lorsque les autres souhaitent traiter de troubles plus enracinés. Et toujours des questions universelles qui se posent sur le déclin de la sexualité, l'épanouissement ou la longévité du couple. La journaliste Elsa Fenner est allée enquêter dans le cabinet d'une sexologue. Elle en publie le récit. C'est aujourd'hui le dossier de l'émission avec notre sexologue à nous, Philippe Bruneau. Pourquoi en vient-on à consulter? Eh bien, j'attends vos messages, vos questions, vos témoignages sans doute sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, il y a du lourd et du vieux dinosaure 100% made in France.
Oui, avec un spécimen nouveau, Vivria damparisensis, un géant découvert en France en 1934. Il a dormi 83 ans dans les réserves du muséum avant d'être décrit complètement par les chercheurs. Et on reçoit donc un de ses néo-découvreurs, le paléontologue Ronan Alain.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Sexothérapie donc dans le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, la journaliste Elsa Fenner et le sexologue Philippe Bruneau. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux.
Oui, bonjour Mathieu.
Elsa Fenner, pourquoi avez-vous eu envie de vous immiscer dans un cabinet de sexologue un beau jour pour y passer une année entière?
Êtes-vous psychanalyste?
Non, mais ça m'intéresse de le savoir.
Ça va prendre longtemps. La curiosité, c'était d'avoir accès à une intimité, à une parole assez brute, pour sortir des interviews brèves et courtes et de mener un projet au long terme pour voir en gros quels étaient vraiment les réels problèmes de nos compatriotes.
Tiens, on va en parler évidemment avec vous, Philippe Blanc, puisque vous les voyez passer dans votre cabinet, ces couples, bien souvent. Est-ce que les motifs de consultation ont beaucoup évolué au fil du temps?
Ah, ils ont énormément changé, parce qu'il s'agit en définitive pas forcément de maladies, mais de symptômes de quoi? De symptômes de l'évolution de notre société. Des choses qui nous paraissent difficiles aujourd'hui ne le paraissaient pas de la même façon il y a 50 ans.
Allez, vous aussi, vous allez nous faire pénétrer dans votre cabinet. On se retrouve dans un instant pour en parler avec les messages des auditeurs et donc en particulier autour des troubles du désir avec les messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. C'est donc l'histoire d'un vieux fossile découvert il y a presque 100 ans que nous vous racontons aujourd'hui à la une de la science.
Clique sur le brachiosaure et pose-le sur la balance. Oh là là! Il pèse 50 tonnes!
Et on parle des restes d'un titanosaure, un sauropode géant retrouvé dans les réserves du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est moins lourd que celui dont on vient de parler. Et ces restes, justement, viennent d'être décrits en détail par une équipe franco-anglaise. Il s'appelle Vivria damparisensis. C'est le plus vieux des titanosaures connus. Et on le découvre avec vous, Ronan Alain. Bonjour!
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléontologue, responsable des collections d'oiseaux et de reptiles fossiles au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, on en trouve beaucoup, d'abord des fossiles aussi intéressants que celui-là et qui dorment dans les réserves du Muséum.
Alors, en ce qui concerne les collections du Muséum, la réponse est oui. On a encore beaucoup de spécimens qui n'ont pas été décrits, qui ont été découverts à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. On a aussi des spécimens qui ont été rapportés plus récemment. Donc on a encore quelques belles surprises. On les connaît, hein, ils ne sont pas complètement redécouverts, mais ils nécessitent une description complète.
Alors, quelle est l'histoire de ce fossile-là? Pourquoi vous décrivez aujourd'hui un fossile qui a été découvert en 1934?
Alors c'est un fossile qui a été trouvé effectivement en 1934 du côté de Damparis, donc dans le Jura. Il y avait une très belle monographie, deux belles monographies. Une d'abord qui avait raconté la découverte dont les carrières Solvay qui est exploitée pour des calcaires jurassiques. Et après en 1943, une première description de l'animal et la conclusion de la description de cet animal par l'abbé de l'Apparence, c'était que c'était un animal qu'on connaissait déjà, qu'il avait appelé Botrios spondylus madagascariensis. Et puis depuis 1943, pas de nouvelles descriptions. Et donc on a réexhumé ces fossiles, on s'est repenché sur ces fossiles, on les a repréparés, on les a nettoyés. Et ensuite, on les a étudiés en détail et on a pu montrer comme ça qu'on avait un des plus vieux brachiosaures et un des premiers titanosauriformes connus.
Alors je ne saurais pas redire le nom que vous avez cité, mais donc les scientifiques se sont complètement trompés.
Alors, ils ne sont pas complètement trompés. C'est juste avec l'avancée des connaissances. Il est normal aussi de temps en temps de ressortir ces vieux fossiles qui dorment dans nos collections pour les réétudier à l'aune des connaissances actuelles. Donc là, actuellement, il y a eu beaucoup de progrès faits sur les connaissances des sauropodes à la transition jurassique-crétacée. Et donc, ce spécimen-là, en plus, qui est daté d'une époque où on connaît très très peu de choses, puisque il s'agit de l'Oxfordien, donc on est à peu près à 160 millions d'années, pouvait apporter des preuves de l'origine d'un groupe, et ça a été le cas, c'était celui des titanosaures.
Vous pouvez nous redonner son nom, parce qu'on a bien aimé tout à l'heure, Ronan Alain.
Alors le nom de l'animal, c'est Vouivria dans Parisensis. On fait référence en fait à la vouivre, qui est un animal mythique, qui est commun en Franche-Comté. Hein, c'est vraiment quelque chose typique des légendes de Franche-Comté. Et puis on fait aussi référence par la même occasion à Marcel Aimé et à son roman homonyme La Vouivre, qui se passe dans la région.
Est-ce que vous avez assez de morceaux d'eau pour nous aider à imaginer à quoi il ressemblait?
Alors, c'est en fait un des sauropodes les plus complets qu'on connaisse en France. Alors déjà, pour la petite histoire, on connaît qu'un sauropode bien complet en France, c'est un Pélosaurus qui date du Crétacé supérieur. Et en fait, c'est juste le deuxième sauropode français bien connu. Donc on a les pattes entières, les pattes antérieures, les pattes postérieures, ainsi que le bassin et les omoplates. On a quelques vertèbres qui sont très intéressantes pour pouvoir justement positionner cet animal dans l'arbre phylogénétique, dans l'arbre évolutif des dinosaures. Et on a les dents de cet animal.
Et il mesurait combien alors ?
On est sur un animal qui fait à peu près une quinzaine de mètres de long et qui devait peser dans les 15-20 tonnes.
Pas mal.
Alors, c'est dans le Jura, on l'a dit tout à l'heure, qu'il a été trouvé. À quoi ça ressemblait le Jura il y a 160 millions d'années ?
Alors le Jura, 160 millions d'années, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on est en début d'une période où petit à petit, on a une émersion, si vous voulez. L'Europe, à cette époque-là, en fait, est un archipel d'îles. Et dans cet archipel, on a des endroits de passage de dinosaures. Et si vous traversez la frontière dans le Jura actuellement, depuis les années 2000, on a trouvé énormément de sites à empreintes, que ça soit en Suisse, du côté de Porrentruy, ou du côté de Lain, ou de Plagne, de Loule. Donc on a fait très très nombreux sites de dinosaures sauropodes, donc on sait qu'il y avait beaucoup de passages, mais on n'a quasiment aucun squelette. Et le fait de décrire ce squelette, ça va peut-être nous renseigner justement sur tous ces sauropodes qui traversaient l'Europe à cette époque-là.
Mais c'était quoi le climat alors autour de ces îles? Il faut imaginer le Jura complètement différent d'aujourd'hui quand même.
Ah,
hein,
vous avez pas de montagne à cette époque-là, on serait plutôt dans un archipel type Bahamas à l'heure actuelle.
Voilà, c'était tropical.
Ah ouais. Oui, c'était le paradis à l'époque.
Le lagon bleu du Jura.
Le lagon bleu du Jura, c'est un petit peu ça, l'Europe avait vraiment un rôle central à cette époque-là au niveau de la géographie, puisque c'était un élément central entre l'Asie, entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, et en fait, c'était un passage plus ou moins obligatoire, c'était un carrefour pour la plupart des grands groupes de dinosaures qui sont passés en Europe et qu'on connaît maintenant en Europe.
Cette étude, elle montre aussi quand même qu'en Europe, à cette époque qui est très tardive, il y avait beaucoup de dinosaures.
Alors c'est cette étude elle a été poussée aussi justement par pas mal de travail qui sont faits un peu partout en Europe, en Espagne et au Portugal en particulier. En Portugal, depuis la fin des années 90, début 2000, il y a eu beaucoup de découvertes de la fin du Jurassique. On a trouvé des dinosaures qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve en Amérique du Nord. Depuis plus récemment, on a travaillé sur le tout début du Crétacé avec des très belles découvertes en Espagne, du côté de la province d'Aragon. On a nos gisements français d'Angeac qui datent de cette époque-là, avec nos grands dinosaures. Et donc, réétudier cet animal qui est un petit peu plus vieux que tout cela, ça nous permet justement un petit peu de savoir d'où viennent les animaux qu'on va retrouver dans les autres gisements. Et ça nous permet surtout de suivre l'évolution des faunes de dinosaures en Europe, mais surtout à travers tout le monde, puisque ces dinosaures, on les retrouve aussi en Amérique du Nord et en Afrique à cette époque-là.
Et on peut le dire, le travail que vous avez fait sur ce dinosaure, il est assez impressionnant parce que c'est 80 pages de description, os par os, phalange par phalange. On peut vraiment dire des choses sur chaque os d'un dinosaure qu'on trouve comme ça ?
On peut dire des choses sur chaque os de dinosaure, et quand on reconstruit nos arbres phylogénétiques, donc nos arbres évolutifs, là on a un arbre qui a été construit à partir d'à peu près une 500aine de caractères. Donc c'est des caractères anatomiques très très précis. Chaque caractère va être regardé sur les os que nous disposons, et puis surtout il va être comparé avec les autres animaux. Donc vous devez vérifier à peu près 500 caractères chez 80 dinosaures différents. Donc vous faites le calcul et vous verrez que ça fait énormément de petites caractéristiques anatomiques à vérifier.
Et votre dinosaure, alors, il va retourner dans ses tiroirs ou pas? Là, qu'est-ce que vous allez en faire exactement?
Alors, notre dinosaure, j'espère qu'il va trouver des beaux tiroirs parce qu'il est grand. On a toujours ce problème d'un point de vue de la collection. Quand vous avez des os qui dépassent le mètre de longueur, vous n'avez pas spécialement, ça ne rentre pas dans les tiroirs, justement. Ouais. Donc, on a besoin d'étagères et de pièces spécifiques. Et là, il y a pas mal de choses qui vont bouger en paléontologie au muséum puisqu'on a une partie des collections qui devraient déménager en fin d'année. Et donc, on va récupérer de la place et on va pouvoir stocker ce dinosaure de façon, on va dire, correcte. Et puis surtout, on va pouvoir le rendre accessible à tous les chercheurs étrangers, puisqu'avec cette publication, beaucoup de collègues vont venir l'observer.
Merci beaucoup, Ronan Alain, pour vos explications donc autour de la découverte de ces restes que vous aviez donc depuis longtemps dans vos réserves. Oui, vous ira dans Paris-Seine-6. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
14h14, dans un instant, notre dossier sur les troubles du désir.
Un jour ici-bas, un jour ordinaire, en sympathie pour toi et pour la terre entière. Le supplicié sur la chenille, le fugueur en poster, typhon à manie, tumeur du milliardaire. Je suis l'enfant sur la banquette arrière, le taliban dans un container. Je suis celui qui dit je suis. Par procuration, le bébé secoué, le futur avorton, le pied au plancher. Je suis la pluie de corps sur les maisons d'Ukraine, le caïd dans le coffre en flammes. Un tankiste libyen dans le viseur sagem d'une femme rafale. Songe à tous les camarades, au paria des lettres sur sa balustrade. La défense, une après-midi pâle, les jardins de Candy en instance de divorce, les changeurs de bagnolet la nuit, les mercuriales, le cirque de la solitude, l'hiver en Corse. Je suis la villa pamplemousse, la verrine et le voiturier, le fusil dans sa housse, le restaurant déserté. Je suis le transistor sur le lit d'hôpital, ses lèvres dont rien ne sort. État de conscience minimale, bientôt fixé sur leur sort. Je suis celui qui dit qu'il est. À qui je n'ai rien donné, le dernier Noël de François Mitterrand, le chien à la fourrière qui se ronge les sangs pour celui ou celle qui l'a abandonné. Je suis l'écureuil lancé du Grand Canyon, le cercueil sur son tapis roulant qui avance en chanson vers le crématorium. We'll be right back.
L'enfant sur la banquette arrière, c'est Bertrand Burgala.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les consultations pour les troubles du désir, c'est donc le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités, la journaliste Elsa Fener. Vous êtes donc l'auteur de ce livre Sexothérapie qui paraît au Seuil. Et puis Philippe Bruneau, psychiatre, sexologue, auteur entre autres de Sex Story, la première histoire de la sexualité en bande dessinée avec Laetitia Corin. C'est aux éditions Les Arènes et les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Quel dommage, vous aviez une question extraordinaire à poser à notre invité paléontologue tout à l'heure sur le dinosaure, Philippe Bruneau.
Et moi-même, en tant qu'anthropologue, je connais les dinosaures, oui. Et il y a quelque chose qui nous a intrigué, vous savez, ce qui est caractéristique de en dehors de l'humanité, tous les mâles ont un os pénien pour assurer la rigidité. Et je ne sais pas quelle est la taille l'os pénien des dinosaures. Certainement impressionnant, puisque chez les baleines, il fait près de 2 mètres. Et chez dinosaures, je pense que ça fait.
Mais vous savez quoi, on va appeler Ronan Alain pendant l'émission pour qu'on ait la réponse avant la fin, si on peut lui passer un petit coup de fil pour avoir cette réponse. Parce qu'effectivement, avec une bête de 15 mètres, ça doit être très impressionnant. Pardon pour ce petit pas de côté, Elsa Fener, puisque c'est pour votre livre que vous êtes là. Racontez-nous, ça a été facile de trouver une sexologue, en l'occurrence, dans la banlieue d'une grande ville française, qui accepte de vous recevoir pendant un an dans son cabinet pour écouter le dialogue avec ses patients.
Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, c'est que j'avais interviewé cette sexologue quelques années auparavant, à propos d'un autre sujet, elle pratiquait l'hypnose médicale et j'avais été la voir pour ça, et on avait eu un très bon échange, je crois qu'elle avait été satisfaite de la du résultat. Mm-hmm. Et du coup, il y avait quand même un rapport de confiance qui s'était instauré. Donc quand j'ai eu la possibilité de mener un reportage un peu au long cours, c'était c'était mon souhait. J'ai repensé à elle, ses propos m'étaient restés en mémoire, je les citais, vous savez, il y a des rencontres quelquefois dans la vie et qui vous suivent après. Je me suis dit là, mon rêve ce serait de me faire petite souris dans son cabinet. Oui. Je l'ai rappelée, elle se rappelait bien de moi, c'était étonnant et du coup, elle a accepté, elle a pris le temps de la réflexion, elle a accepté, je pense que c'était un moment dans sa vie où elle avait aussi envie d'un peu d'air frais, d'un peu rencontrer quelqu'un qui est journaliste, qui apporte autre chose aussi dans sa réflexion.
Alors elle, c'est une chose, mais ses patients, alors eux, ils ont accepté facilement?
Voilà, donc le dispositif sur lequel on s'était mis d'accord, c'était le patient arrive, il me croise éventuellement dans la salle d'attente, il arrive dans le cabinet, et là, le médecin, puisqu'elle est médecin généraliste également, demande en mon absence si une journaliste peut les rejoindre. Elle était journaliste, écrit un livre sur le sujet, etc. Et alors, très peu de patients ont refusé.
Ça vous a étonné?
Oui.
Ouais. Philippe Bruneau, c'est quand même étonnant, parce qu'on vous a fait la proposition, vous déjà, ou pas, de venir étudier comme ça vos consultations?
Non, on ne m'a pas fait la proposition directe. Je pense que ce n'est pas très facile. Enfin, ça dépend des exercices, hein, mais je trouve très intéressant la façon dont les gens sont de plus en plus ouverts. Après, il y a la relation de confiance dans la relation à deux ou à trois avec le couple qui amènerait des freins. Alors, ça dépend des clientèles et certainement de la qualité de relation que ce médecin, cette femme, a avec ses patients et qui leur a permis de comprendre qu'il y avait une vraie confiance.
Ça veut dire aussi que c'est moins tabou d'aller voir un sexologue.
Voilà. Ce que je voudrais, avant qu'on en parle plus en détail, je voudrais à la fois remercier, féliciter
Elsa Fener
de son travail, parce que c'est vraiment une situation expérimentale d'abord. Ouais. C'est essayer de comprendre pour dédramatiser, parce que les gens craignent une situation qu'ils ne connaissent pas. Il y a quelques années, j'avais édité d'un psychiatre un livre qui s'appelait « Les indiscrétions du fauteuil d'un psychiatre ». Et c'était romancé de cette façon-là. C'est le fauteuil qui racontait, qui était la petite souris. Et c'est exactement cette position qui permet à ce moment-là aux gens de comprendre qu'il n'y a pas, qu'il y a de la bienveillance, que ce n'est pas si dramatique que cela. C'est ce que vous faites. Et avec une deuxième dimension que je trouve très intéressante, qui est le fait que ce soit romancé. C'est-à-dire que, à partir de là, on n'est pas dans le catalogue. Il y a beaucoup d'informations scientifiques, cliniques, relationnelles qui sont données et qui peuvent permettre, par un récit qui est assez facile à lire, de comprendre, en fait, de dédramatiser une relation dont beaucoup de gens ont besoin, parce que très peu de gens qui ont des troubles consultent, hommes ou femmes, et on se rend compte de quelle façon il y a énormément de difficultés sexuelles dont les gens n'osent pas parler.
Pourquoi on consulte peu avant de passer la parole à Elsa Fener?
On le sait, par exemple, on l'a tout à fait estimé par rapport aux troubles de l'érection. On sait très bien qu'il y a, par exemple, près d'un homme sur deux à l'âge de 50 ans qui a des petites difficultés, des plus grosses, des plus importantes. Mm-hmm. Je crois que c'est 20% qui consultent.
Ouais. Elsa Fener, alors, sur effectivement ce travail avec les couples, ils ont parlé librement. Vous avez senti vraiment une, une liberté de parole face au thérapeute ?
Oui, alors, face au thérapeute, oui. Après, il est difficile de savoir s'ils auraient... se serait exprimé de la même manière en mon absence. Mmh. Je veux quand même souligner le fait qu'il y a un secret médical et que je ne sais pas si les gens sont plus ouverts ou plus moins respectueux des règles. En tout cas, ce n'est pas forcément une source de fierté que de m'être introduite dans ce cabinet. Normalement, le secret médical l'interdit. Hein, voilà. Pour être très clair là-dessus. Bon, après, ça, j'ai trouvé ça passionnant. Il n'empêche que j'ai trouvé ça passionnant. Les gens parlent librement, plus facilement peut-être quand ils sont seuls qu'à deux, j'ai trouvé.
Ah oui.
Ouais, peut-être.
Mmh.
Homme comme femme, alors le fait d'avoir une interlocutrice féminine n'a pas eu l'air de changer les choses. Après, c'est une sexologue qui n'allait pas forcer à verbaliser, le patient à verbaliser, de la même manière qu'elle ne le forçait pas à mettre une estampille, un terme sur son trouble. Mmh. Si un homme arrive en disant « j'ai de petites difficultés avec mon érection », elle reprendra cette expression presque... Mmh.
Petite difficulté.
Voilà, exactement. Ouais. Parce que si elle dit, bon, bah, d'accord, vous êtes avec votre impuissance, comment ça va depuis la dernière fois avec votre impuissance?
Ouais. Alors ça, c'est un mot qui est plus employé aujourd'hui, impuissance.
Mais peu importe, les termes médicaux ne sont pas employés par cette sexologue dans sa démarche. Mmh, mmh. Parce que, tout simplement, imaginez, vous êtes enfermé dans ce terme une fois qu'il vous enferme. C'est un cadre, un tiroir. Donc si vous l'avez employé vous-même et que vous avez besoin de précision, bien sûr qu'on va vous les donner. Moi, si vous ne l'avez pas employé et que vous trouvez que vous avez des petites difficultés, ben,
c'est,
on va travailler avec ces petites difficultés. Ouais. Sinon, c'est encore plus dur de s'en sortir si on vous dit vous êtes frigide, vous êtes impuissant, vous êtes anorgasmique.
Et les mots comptent, évidemment, puisque la part psychologique est importante aussi dans ces troubles
du désir. La part psychologique est considérable, parce que le travail des médecins, déjà, c'est la moitié de relationnel. Là, la grande difficulté de la sexologie, et vous le montrez très bien, c'est qu'il faut allier à la fois un discours bienveillant, mais pas d'une écoute passive, et puis ensuite utiliser les mots du patient, ça c'est des façons de faire qui permettent d'être plus tranquille, et tout en ayant un discours très direct. C'est ça qui caractérise aussi les sexologues, les gens qui font de la sexologie, c'est-à-dire qu'on va parler directement de la chose en cause, du trouble, pas forcément avec les termes dont on disait qu'ils sont trop enfermants, mais on va parler directement, on va pas éluder la question, et on va aussi vers des propositions de solutions.
Pour illustrer notre sujet, un extrait du film Tout le plaisir est pour moi, qui était sorti en 2004 avec Marie Gillin et Brigitte Rouen.
Qu'est-ce qui t'a pris de parler de ça à table? Il y a des choses qui se disent pas, surtout devant ton père. Il est vraiment temps que tu grandisses. Qu'est-ce qui va pas avec toi?
Rien. Rien devant en ce moment.
Mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Et ta soeur, comment elle fait, elle?
Elle simule.
On ne peut pas le savoir.
Oui, bien sûr, on peut pas en parler. Je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi on peut pas en parler. Résulte à la fin. Tu veux en parler? Tu veux vraiment en parler? Mais bien sûr, elle simule. Il n'y a pas de honte à ça, c'est même une preuve d'amour.
Ah, parce que toi aussi, tu simules.
Dans quel monde tu vis? Qu'est-ce que tu crois? La vie est faite de compromis. Les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas. Ton père comme les autres. Alors moi, je fais des efforts pour lui faire plaisir. C'est comme ça qu'on construit un couple. Chacun essaie de tenir compte des désirs de l'autre. Tu vois ce vaisselier? Il n'en voulait pas, moi j'en avais très envie depuis longtemps. Et puis un jour, après une nuit, il a voulu me faire plaisir à son tour, il me l'a offert. Et du coup, moi j'ai eu envie de lui faire plaisir les fois suivantes. Comment tu crois qu'on est ensemble depuis toutes ces années? Ça se mérite.
Et ta théière, c'est quoi? Une fellation réussie? Ouais, ben, je comprends mieux pourquoi j'ai jamais aimé ça.
Et les fellations? Oh, le thé. Oh, écoute, ça suffit, maintenant tu dépasses les burnes.
Voilà, un petit lapsus en prime avec Tout le plaisir est pour moi. Et pour commenter donc ce film, cet extrait, Elsa Fenner et Philippe Bruno. Philippe Bruno, la simulation, une preuve d'amour, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Bon, d'abord, on ne sait pas l'estimer, la simulation. Il y a toujours des idées. On pourrait dire ce que l'on veut. Moi, je trouvais très intéressant aussi dans ce dialogue que souvent les choses ne sont pas nommées. Et ce que l'on va voir avec les gens qui présentent des difficultés sexuelles, très souvent, par exemple, début d'un entretien, quelqu'un va dire, vous savez, on ne le fait pas très souvent. Personnellement, j'ai un blanc. De quoi? Qu'est-ce que vous faites pas très souvent, le tour du quartier de maison? Non, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que la personne ne peut pas nommer, et très souvent, pendant plusieurs séances, quelquefois. C'est-à-dire que c'est très important. Moi, je vais préciser une chose qui est très simple, et les gens qui écoutent peuvent l'entendre. Ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Les petits-enfants pour découvrir le monde, ils vont nommer table, chaise. C'est comme ça que les choses existent. Et on va voir qu'au fil des entretiens, on faisait au tout début de la sexologie, on demandait surtout aux femmes qui avaient des grandes difficultés à la sexualité de dessiner leur région génitale. Et elles faisaient quelque chose qui était très sommaire, une espèce de petit point. Et petit à petit, quand ça a évolué, ça ressemblait à la région qu'elle commençait à investir.
Elsa Fenner, vous avez étudié les mots de l'amour, les mots de la sexualité au cours de ces entretiens.
Oui, alors peut-être qu'on peut préciser quand même ce que c'est qu'une sexologue.
Sexologue et pas sexothérapeute.
Voilà, sexologue, donc ça relève où il faut avoir une formation, une profession de base. On n'est pas sexologue dans l'absolu. On peut être médecin sexologue ou psychologue sexologue. Ce sont deux diplômes universitaires distincts, en 3 ans l'un et l'autre. Et donc, quand on est médecin, on peut être, je sais pas, gynécologue, urologue, médecin généraliste, comme c'est le cas de ma sexologue. Et on peut être sinon donc psychologue. Donc ça, il y a deux, selon ce qu'on préfère, quelqu'un qui puisse prescrire des médicaments, voilà, faire des examens, ou quelqu'un qui soit vraiment dans l'approche psychologique
et
qui soit formé à ça. Bon, l'intérêt de la mienne, c'est qu'elle est un peu à convergence des deux, mais voilà, donc je voulais préciser quand même ce point, si pour les auditeurs.
Aujourd'hui, il y a un petit peu plus, il y a 7 professions de santé, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui font de la rééducation périnéale, qui sont sexologues, des sages-femmes, sexologues, et tous ces corps de santé font exactement le même.
C'est encore un autre diplôme.
Et sur les mots, alors, justement.
Donc, sur les mots, donc, comme je disais tout à l'heure, on peut éviter d'employer certains termes, je pense qu'il y a plusieurs écoles, qui peuvent enfermer, puisque les patients que j'ai pu observer, rencontrer, arrivaient tous avec une explication. Donc, c'est la ménopause, c'est l'âge, c'est sûr, c'est les
chacun
médicaments.
Chacun connaît les raisons de son trouble.
Voilà,
au fond,
mais vient quand même. Et puis, c'est là encore une raison qui condamne. C'est-à-dire, si c'est la ménopause ou l'âge, vous êtes fichu parce que vous n'allez pas revenir en arrière. Donc, et pareil, c'est âge égale impuissance, mettons. Donc là, on a quand même deux enfermements. On a le terme impuissance et le terme âge. Donc, le premier travail de la sexologue, là, en l'occurrence, ça va être de faire douter, de semer ce qu'on appelle la confusion. Et généralement, on s'aperçoit, par exemple, le PDG de 67 ans qui consulte, qui pense que c'est l'âge, qu'en fait, quelquefois, ça marche. Et quelquefois, ça marche pas. Oui. Et qu'il n'a pas réellement un trouble de l'érection, mais un trouble, il va reformuler, du maintien de l'érection. C'est quand même pas pareil. Quelquefois, ça marche. Et en plus, c'est surtout les prolongations qui posent problème. Oui. Donc, si c'est pas ce que je croyais, alors il y a un moment de flottement, là, dans le cabinet. Alors, elle se garde bien de parler, pareil, comme Philippe Bruno, le silence, là. Donc là, la personne est désemparée. Son explication à laquelle elle s'accrochait, qui l'a peut-être aidé un temps, mais là, qui la condamne, est lâchée. Il n'y a pas forcément besoin de trouver une autre explication, la juste explication. Mmh. Tout le monde n'est pas en demande. Simplement, autre chose est possible. Alors là, on peut aller mieux. Oh là.
Paul nous dit sur franceinter.fr « J'ai 30 ans, depuis la naissance de nos enfants, il y a 2 ans, j'ai eu une réelle baisse de désir pour ma femme. Blocage physiologique, dit-il. Résultat, je mets la pression, c'est de pire en pire, panne sur panne. » Philippe Bruno.
Mais oui.
Ça, c'est un cas classique, j'allais dire,
oui,
ou pas?
Oui, il y a énormément de choses qui sont... Mais j'allais dire, ce ne sont pas des troubles. Ça devient des troubles dans notre société qui voudrait, qui nous donne l'espèce de mythe de la sexualité infaillible. Mmh. Et la sexualité masculine infaillible, c'est vrai que la référence au porno montre qu'il y aurait une sorte de modèle infaillible. Il y a des difficultés émotionnelles, par exemple l'arrivée d'un enfant, le bouleversement dans les identités, la personne qui a du mal à trouver sa place de père ou de mari ou d'amant, par exemple. Et puis il va y avoir, à partir d'une panne, c'est ce qu'il raconte exactement, on va avoir ce qu'on appelle l'angoisse d'anticipation. C'est-à-dire que j'ai peur à nouveau que ça se reproduise, c'est tout à fait inconscient, mais dès que j'approche, mon érection, elle est plus solide de la même façon.
Écoutons Janko, en 1961, justement sur l'ORTF, nous parler de la diffusion de la parole autour de la sexualité.
Je voudrais vous dire d'abord que, pour tout vous dire, j'en ai assez. J'en ai vraiment assez de ces problèmes de sexe, de sexualité par-ci, de sexualité par-là. Le sexe est disséqué, il est mis sur les tables du laboratoire, et la sexualité, qui est d'abord un élan et une spontanéité, a les reins brisés littéralement à coups de commentaires et d'analyses, et nous en arrivons très vite à l'impuissance.
Et voilà, à cause des commentaires et de l'analyse, on en arrive à l'impuissance quand même.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque, Janko trouvait qu'il y en avait beaucoup, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, on est, je dois dire, intoxiqué.
En 71, on n'en parlait pas trop après 68 et la libération des mœurs.
On parlait très peu de sexualité, mais à l'époque, le tout petit peu était quelque chose d'étonnant.
Elsa Fenner, ça vous amuse? amuse, cet
oui,
extrait.
Oui, oui, et l'idée, effectivement, que le fait d'en parler donne au problème plus d'importance. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit le fait d'en parler dans les médias, mais plutôt le fait d'en parler. Justement, souvent on conseille, on entend peut-être ou on lit dans les magazines, parlez-en à votre conjoint, dites-le quel problème. Et là, ce que j'ai pu observer dans le cabinet, c'est que ce n'est pas forcément une solution. Parce que si vous commencez à dire à votre conjoint, alors là, tu vois, chérie, c'est quand tu mets la main sur le poignet, que tu entres dans la chambre, que moi, ça me bloque, parce que je ne sais pas comment ça va se passer.
Là, c'est infernal, c'est mal barré.
Et alors là, vous en discutez sur l'oreiller, vous passez la nuit à voir finalement ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, c'est terrible parce que ça devient cérébral. Mmh. Et l'intérêt de ces suivis, de ces accompagnements, c'est de se réconcilier avec son corps. Et quitte à pas comprendre de manière par le raisonnement ce qui se passe, c'est pas grave. Il faut laisser le corps. Il est meilleur conseillé que la tête, le corps. Il sait très bien ce qu'il doit faire.
Justement, Patrice demande, est-ce qu'il y a plus de troubles sexuels dus à des problèmes physiologiques ou psychologiques?
Je dirais très grossièrement beaucoup plus psychologique et relationnel. Mais ce que l'on est en train d'évoquer, c'est aussi souvent le psychodrame qui va se tenir autour du trouble sexuel. Parce qu'on est sur le modèle, par exemple, des feuilletons américains où on se sépare s'il y a la moindre difficulté. Et à ce moment-là, on va avoir effectivement en main Psychologie Magazine ou tel autre magazine qui va avoir parlé de cela. Et la plupart du temps, le sexologue va demander une chose. On va parler de sexualité ici. Ailleurs, vous la vivez, vous allez être dans le vécu personnel, mais pas l'interprétation.
Philippe Bruno, il n'y a pas d'os pénien chez le dinosaure, uniquement chez les mammifères.
Alors là, ça m'intéresse. Ah, mais c'est voilà, vrai, j'avais
c'est
oublié.
Exactement. Pas d'os. Je suis désolé, vous auriez tellement aimé pouvoir nous raconter dans les dîners en ville.
Merci à notre paléontologue.
Voilà, c'est Ronan Alain qui nous a donné cette information.
It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame. Such a beautiful time to rise and walk away from all the endless lies. I try to see the world through other eyes.
Voilà peut-être un remède pour les troubles du désir. It's a wonderful time for love, Norah Jones sur France Inter.
Magnifique.
Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête.
Voilà, ça c'était une publicité pour les aspirines. Voilà. On entend souvent encore cette réplique, elle est toujours aussi employée ou pas le,
moi je crois qu'il y a une question de génération.
La stratégie de d'évitement.
Les plus jeunes ne connaissent pas la formule, mais c'était expliqué par les analystes et ce n'était pas faux. C'était que le mal à la tête était ce qui se trouvait le plus loin du sexe. Ah. C'est-à-dire c'était et on refoule les pulsions en les faisant remonter.
La Catherine nous dit, les troubles sexuels ne sont-ils pas parfois le reliquat d'une vieille culpabilité induite par des siècles de morale judéo-chrétienne aboutissant à un refoulement inconscient?
Chez les femmes, il y a quand même ce que j'ai pu observer chez les femmes, c'était une difficulté à se réconcilier souvent avec des fantasmes, des désirs inconscients qui ont été bien vivaces et assumés au début de la sexualité et qui ensuite, je ne sais pas pourquoi, les années passant, ont été enterrés vraiment solidement. Et souvent, là, le travail de la sexologue consiste à renouer avec ses désirs ou c'est simplement ses fantasmes, ses imaginations, ses rêveries. Et pour, a priori, elles sont toujours opérantes ou en trouver d'autres. Se renouer avec ses chemins d'excitation ou en défricher de nouveau.
Léa nous dit sur franceinter.fr, j'ai 21 ans, je prends la pilule, je n'ai jamais eu le souvenir d'avoir vraiment envie de faire l'amour plus d'une fois par mois. La pilule peut-elle être un problème ?
La pilule, certaines pilules ont pu l'être. La plupart des pilules aujourd'hui respectent mieux, mais c'est très vrai qu'on ne. Vous savez, on prend la pilule. Enfin, les femmes prennent la pilule, mais n'ont pas le même cycle. On ne sait pas évaluer exactement les taux hormonaux. Et chez certaines, quelque chose peut gêner, peut bloquer, et pas d'autres.
Ouais, alors.
À ce moment-là, faut demander à sa gynécologue parce qu'on a à l'heure actuelle quand même des pilules extrêmement bien dosées.
Elsa Fener, une réaction quand même à ce message.
Oui, parce que j'ai rencontré pas mal de patients qui étaient jeunes, qui étaient entre 20
ça,
et 30
ans. Ça, c'est étonnant, non ?
J'étais étonnée, même très jeune, une jeune femme qui avait 24 ans, en plus qui faisait beaucoup plus jeune physiquement, et qui viennent souvent parce que soit le problème a été récurrent, et là, ils entament une histoire qui compte vraiment. Ça, c'était pas mal. J'ai vu peu de patients célibataires, par exemple, prendre à bras-le-corps un problème au moment du célibat. Là, c'est plutôt un début d'histoire. Et après, pourquoi pas une fois par mois je veux dire, c'est comme l'éjaculation précoce. Depuis quand il faut avoir des rapports extrêmement longs, faire l'amour tous les jours. Enfin là, si ça lui convient, le problème, c'est si c'est source de souffrance, évidemment. Là, c'est compliqué. Mais c'est le critère, c'est la souffrance.
Mais ce que vous évoquez est très vrai. Énormément de patients vont venir parce qu'ils débutent une relation qui est très importante pour eux. J'ai eu des difficultés, mais là, depuis 3 mois, je suis avec quelqu'un et je n'ai pas envie que les difficultés de sexualité que j'ai pu avoir gênent cette relation qui, pour moi, est très importante.
Quels sont les principaux motifs de consultation, justement ? Qu'est-ce qui arrive largement en tête ?
Étant donné que chacun formule différemment son motif de consultation, et que ce soit un motif en cache un autre, quand même compliqué. De manière générale, chez les hommes, ce sont plutôt des problèmes d'érection, même si finalement c'est parfois autre chose. J'ai un policier qui est venu là, qui avait un peu moins de 30 ans, qui était quand même extrêmement angoissé, qui se voyait faire.
Il avait envie. Brutal,
Il était brutal, voilà, il avait des envies violentes, mais là encore, pourquoi pas, tant que c'est dans le consentement et que ça reste dans certaines limites, comme dit la sexologue, ça dépend avec qui vous jouez. Mais voilà, ce que cachait sa demande, c'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs. Elle lui dit, dites donc, c'est un peu moins simple que ce que votre médecin généraliste m'a indiqué, parce que c'est quelqu'un qui relève peut-être plus d'une. Peut-être plus besoin d'un psychothérapeute au sens où il est sur le qui-vive permanent dans sa vie. D'ailleurs, il est devenu policier, mais il n'aurait jamais été voir un psy. Et donc, la sexologue le rassure, et malgré tout, avec l'hypnose, avec des tas de techniques, il ne règle pas totalement son problème, mais dans sa vie, de manière générale, il se détend. Il arrive à gagner quelques secondes, quelques minutes de lâcher prise et de plus être sur le qui-vive et de se voir faire en permanence.
Fibre, non.
Oui, souvent, c'est qu'en fait, ce ne sont pas forcément des troubles sexuels, mais ce sont des troubles qui s'expriment au niveau de la sexualité. Par exemple, un trouble émotionnel, mais je vais le ressentir parce qu'il y a 2 ou 3 systèmes qui sont très sensibles aux variations des émotions. C'est le sommeil, la sexualité. Mais l'évolution, depuis une trentaine d'années, l'évolution des demandes est très claire. On l'a vu pendant longtemps, c'était des difficultés de réalisation du couple. Il n'y avait pas des choses très très affirmées. Quand sont arrivés les produits qui ont réglé les problèmes masculins, on a vu augmenter ces demandes parce qu'il y avait une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des solutions pour la plupart des hommes jeunes ou plus âgés. Ensuite, on a vu que les troubles du désir, comme on n'arrivait pas à les résoudre, eh bien été dominant, je veux dire dans les 15 dernières années, mais depuis 5 ou 6 ans, ce que l'on entend et qu'on n'entendait absolument pas, c'est des troubles de l'orgasme, du plaisir. Ça, c'est quelque chose
c'est
qui
vrai.
Est une évolution médiatique, c'est-à-dire que la société s'est focalisée sur le plaisir. On s'occupe presque plus de désir et d'une certaine façon, ça devient une sorte de pathologie avec une nouvelle discrimination que personnellement je dénonce, qui est assez misogyne. C'est-à-dire que des femmes qui jouiraient pas profondément, vaginalement, sont dévalorisées. Et j'ai vu des ruptures qui se font. Des hommes qui ne supportent pas qu'une femme soit pas pleinement orgasmique. Il y a quelque chose de compliqué dans notre société aujourd'hui, de cette focalisation autour de l'orgasme. Vous avez entendu parler de... On a parlé beaucoup de point G, d'orgasme, c'est permanent aujourd'hui.
Elsa Fenner, pour rebondir sur ce que vous disiez, Marjorie nous envoie ce message. Je me demande si passer d'un tabou absolu à l'omniprésence du sexe dans les médias a eu un impact sur la sexualité des jeunes. Est-ce plus facile ou difficile d'avoir une vie sexuelle épanouie quand on voit partout des hommes et des femmes qui jouissent pour un oui ou pour un non avec des pratiques sexuelles, disons, exotiques ?
Oui, je pensais effectivement avoir rencontré plus de patients qui parleraient de porno, de... en ligne, et pas tant que ça. En fait, les gens viennent surtout parce qu'il y a un changement par rapport à leur habitude. Dans leur couple, il y a un couple qui vient, qui est ensemble depuis 10 ans, ils sont mariés, ils faisaient l'amour tous les jours avant. Bon, ils se sont connus à 16-17 ans, ils ont connu que l'un et l'autre. Mais on découvre que la jeune femme a été opérée à plusieurs reprises, en peu de temps, et toujours dans la sphère du bas-ventre. Donc finalement, peut-être que son corps fait un petit peu grève. Mais voilà, leur rythme était quotidien, donc... leur souffrance vient du fait que ce rythme...
Leur rythmicité n'est plus la même.
Oui, puis que ce soit... C'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que chaque couple se construit sur des mythes. Notamment le mythe de... Bah, le couple, vous savez bien, le couple qui fait l'amour tous les jours, voilà. Eh bien, là, le mythe risque de s'effondrer. Et là, c'est le couple qui peut s'effondrer.
Écoutons Frédéric Recrozio au sujet de la perte de la libido. C'était au Festival de Montreux en 2008.
Un jour, la perte de libido... Ça t'arrive à toi. Attends, une vie entière à te faire avaler par le désir et tout d'un coup. C'est terrible quand t'as plus envie. C'est terrible parce que t'en arrives à devoir trouver des excuses pour pas passer à la casserole. Et le pire, c'est en vacances parce que là, t'as plus aucune excuse. C'est vrai, en vacances, t'as le temps. Tu peux pas vraiment être fatigué. T'es tout le temps à poil. Ah, bravo, t'es aux Maldives et maintenant t'as l'impression d'être au boulot. Non, puis ce qui est terriblement singulier avec la perte de libido, c'est à quel point tu te sens coupable. C'est fou, t'oses pas lui en parler, t'oses pas lui avouer ça, alors que tu le sais, ça n'a rien à voir avec elle.
Voilà, une petite parenthèse avec l'humoriste Frédéric Recrozio et la perte de la libido. Allez, on consacre les dernières minutes de l'émission au message des auditeurs. Rita qui nous dit ceci, il est très dur pour une femme de constater à partir de 55 ans environ une baisse et même une quasi-perte de désir sans pouvoir distinguer si c'est dû à la ménopause ou si c'est un problème dans le couple.
Oui, alors c'est vrai que la baisse du désir, ou ce qu'on a appelé l'hypodésir féminin, c'est quelque chose de compliqué, comme lequel on n'a pas de solution immédiate. Moi j'espère, et je le pense, qu'on trouvera dans les 20 prochaines années, c'est pas facile à dire, quelque chose comme on a trouvé pour les troubles de l'érection chez l'homme.
Ouais.
Il y a des...
La molécule, vous voulez dire.
Il y a des molécules, il y a des choses en cours, parce que même si c'est d'origine psychologique, on sait, et je passe ma vie à faire...
L'effet placebo, quasiment.
Passe ma vie à faire des psychothérapies. On n'arrive pas facilement à aider des femmes en hypodésir. Alors après, on peut, même en travaillant, moi je travaille beaucoup avec les couples sur redonner un intérêt dans le couple. C'est pas très facile. Par contre, dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait des choses à voir au niveau hormonal dans la post-ménopause. Ça peut arriver.
Elsa Fenner.
Alors oui, là les avis divergent sur ce médicament qu'on promet. Certains disent effectivement l'homme avait bien son médicament, pourquoi pas la femme ? Un médicament qui fonctionne différemment. D'autres disent puisque c'est dans la tête. L'idée quand même, c'est vous avez sans doute lu aussi le livre de Bergner, qui est journaliste américain, qui a compilé des études sur le sujet, qui montre que la femme ne verrait pas son désir baisser avec les années, mais plutôt que ce serait l'habitude. L'absence de nouveauté qui ferait baisser son désir et qu'elle serait plus sensible à la présence d'un nouveau partenaire même qu'un homme.
Ouais.
Je vous laisse méditer là-dessus.
Oui, effectivement, ça nous laisse sans voix. Ça, c'est lâché comme ça. Hélène nous dit, je suis pharmacienne, je constate dans ma patientèle qu'un retour à une hygiène de vie saine au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de la gestion du stress règle souvent les problèmes de sexualité.
C'est difficile à dire, mais c'est vrai que il y a une différence fondamentale entre la sexualité de l'homme et la sexualité de la femme qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble, quand on parle des couples hétéros, qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Et on se rend compte que, par exemple, l'homme est dominé par une excitation extrêmement facile. Et cette excitation est très conditionnelle chez les femmes. Donc, il y a des choses qui sont pas faciles à résoudre.
Elsa Fenner, après une année passée dans le cabinet de cette sexologue, quel résultat vous avez observé justement? Ça fonctionne, l'aide justement d'une professionnelle sur la sexualité? Vraiment, il y a des résultats?
Tout à fait, justement pour rebondir sur ce que dit Philippe Bruno, les accompagner, montrer que c'est pas forcément à guérir, mais à accompagner. Mais effectivement, c'est le côté connais-toi toi-même. Hein, c'est le vieux principe de se dire, il faut l'idée, si chacun connaît ses chemins d'excitation, connaît ce qui lui convient, ce qui lui plaît, sans aucun jugement de valeur. Ça peut être effectivement un rapport rapide et tous les mois, et peu importe, ou pas de rapport.
Je veux dire, mais sur les troubles de l'érection, sur les troubles du désir, vous avez vu, enfin, les patients ont témoigné d'amélioration notable.
Ah bah oui, quelquefois très facilement, d'autres fois plus difficilement, mais d'autres choses ont bougé dans leur vie. Ils ont pris confiance en eux dans d'autres domaines, même au travail. Des jeunes femmes qui avaient du mal à mettre les limites et qui avaient des difficultés à la pénétration. Finalement, elle a appris au cours de cette année à mettre des limites dans tous les domaines de sa vie. Ouais. Et même physiquement, je prenais des notes, j'ai noté, mais finalement, elle est belle, celle-là, alors que ça faisait 6 mois que je la voyais, j'ai pas remarqué que c'était une belle femme. En fait, elle s'est déployée, si vous voulez, presque physiquement, et c'est beau à voir. C'est ce qui est beau à voir dans cette approche qui est basée sur l'écoute et la parole, et le fait que le patient arrive avec ses ressources, c'est que le médecin est là pour l'aider à trouver en lui ses ressources. Donc c'est plutôt ça le message.
Philippe, pour conclure.
Oui, le terme qu'on va utiliser, vous l'avez utilisé, moi je sais pas thérapie, c'est accompagnement. On va accompagner les gens pour dans un mieux-être qui est celui qu'ils désirent.
Et on finit là-dessus. Sans prévenir. Le temps pour moi de donner le titre.
Mathieu me demandait une fin courte. Alors, je la fais un tout petit peu plus longue.
Ah non, ça y est,
si,
c'est fini.
C'est terminé. Mais enfin, en tout cas accompagner vers un mieux-être, c'est évident.
Voilà, le temps de redire le titre de ce livre d'Elsa Fenner qui s'appelle Sexothérapie, ce travail d'observation pendant un an dans ce cabinet de la banlieue d'une grande ville française. Et c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les deux.
Et je pense même que ce livre est même thérapeutique parce qu'il peut permettre aux gens de s'apprivoiser cette rencontre avec un sexologue.
Merci à tous les deux. France Inter, 14h50.